Amis auditrices, amis auditeurs de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, nous allons parler des empoisonneurs. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ces empoisonneurs? Ça n'existe plus. Eh bien oui, les empoisonneurs, c'est le dernier livre de Sébastien Fontenelle, qui est journaliste, qui écrit chaque semaine une tribune intitulée « De bonne humeur dans Politis ». Il tient également un blog hébergé sur le site de Politis et un autre blog, « Les jours heureux ». En outre, il contribue au collectif « Les mots sont importants ». Il est auteur du livre « Les édictocrates » où parler de presque tout, tout en racontant vraiment n'importe quoi. Il présentera et dédicacera son dernier livre « Les empoisonneurs » samedi 26 septembre à 17h au restaurant Le Court-Circuit qui est situé 23 place Notre-Dame-du-Mont à Marseille dans le 6e, il y a la station de métro juste à côté. Et en même temps, pendant cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Tissot qui est sociologue, professeure des universités au département des sciences politiques de l'université de Vincennes Saint-Denis, Paris 8, qui est également militante féministe et pour le droit des étrangers. Elle est fondatrice avec Pierre Thévagnon du collectif Les mots sont importants et co-animatrice du site LMSI, qui veut dire, vous l'avez compris, Les mots sont importants. LMSI.net, créé après la publication de l'ouvrage Mots à mots. Donc c'est les mots M-O-T-S et mots M-A-U-X, comme quand on a mal à la tête. Elle est également réalisatrice de deux documentaires. Eh bien, Sylvie, bonjour, et Sébastien, bonjour. Merci de participer à cette émission chez Radio Galère.
Bonjour, merci beaucoup.
Merci à toi, bonjour.
Nous allons commencer par quelques minutes d'actualité. Je vais vous proposer de réagir à propos du comportement de quelques députés lors de l'audition de Mariam Pougetou, qui est vice-présidente de l'UNEF et qui s'est présentée à la commission d'audition dans sa tenue habituelle, c'est-à-dire voilée parce qu'elle est musulmane. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de ces députés? Mais en même temps, j'entendais hier le ministre de l'Éducation nationale qui disait que les enfants à l'école communale, au collège ou au lycée, devait porter des tenues républicaines. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que peut être une tenue républicaine. Moi, je ne sais pas. C'est peut-être des chaussettes bleues, des chaussettes rouges, un short blanc et un t-shirt bleu, ou le contraire. C'est complètement dingue. Mais bon, vous êtes dans le commentaire, donc vous allez pouvoir vous exprimer là-dessus.
Vas-y. Je ne sais pas ce que c'est qu'une tenue républicaine, mais je sais à peu près ce que c'est que la laïcité, ou en tout cas comment elle est définie dans le droit. Et ce qui est frappant avant tout, c'est de voir à quel point les députés en question ignorent totalement le droit, c'est-à-dire qu'ils font passer la venue d'une femme syndicaliste par ailleurs, qu'on a sollicitée pour venir, et qui porte le foulard, en fait, on considère sa venue comme quelque chose qui est contraire à la laïcité ou qui heurte la laïcité. Ce qui est évidemment totalement faux, et la laïcité, en fait, ne requiert jamais, contrairement à un amalgame qui s'est imposé depuis une quinzaine d'années, ne requiert absolument pas ce qu'on appelle la neutralité, ce qui est encore là quelque chose que je ne saurais pas définir, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'être neutre. Je ne sais pas qui peut être neutre. Donc ça, c'est une première réaction qui à chaque fois est sidérante et à chaque fois qu'il y a ces emballements autour d'une femme ou plusieurs femmes qui portent le foulard, c'est de voir à quel point les gens en question, les gens qui hurlent au scandale, ne savent absolument pas ce que c'est que la laïcité et contribuent en fait à pervertir le sens de la laïcité et en faire en fait une arme contre l'apparition publique et l'intervention dans les débats publics et l'intervention dans la vie démocratique d'une femme qui est par ailleurs musulmane, mais ce n'est pas à ce titre qu'elle a été invitée, une femme qui est syndicaliste, qui est engagée dans la vie étudiante, dans la vie politique, dans le débat public, qui se trouve et musulmane, mais qu'on réduit à cette caractéristique et qu'on stigmatise en raison de cette caractéristique. Pour moi, c'est quelque chose de totalement sidérant. Et ce qui a été sidérant aussi, peut-être que Sébastien enchaînera là-dessus, c'est de voir que ces réactions alors, sont venues de députés de droite, mais qu'un syndicaliste aussi, qui a manqué singulièrement de solidarité syndicale, un syndicaliste, donc un leader de la CGT, c'est aussi, a participé aussi à cette... à ce mouvement de stigmatisation extrêmement violent. Et ça, ça m'a vraiment autant heurté que ce qui est parti en fait, des rangs de la droite.
Je me souviens pas, lors de l'audition de Barbarin, le cardinal, je ne me souviens pas s'il était en tenue, en costume de religieux, ou s'il avait vraiment un costume civil. Je m'en souviens pas. J'ai cherché des images, j'ai pas trouvé. Mais il empêche que le président de la République ou la plupart des élus ne se privent pas d'aller fréquenter la synagogue ou les mosquées lorsqu'il y a besoin d'aller chercher des participations électorales. Non, vas-y Sébastien, pardon, tu voulais réagir.
Non, mais j'ai pas grand-chose à rajouter. Je disais qu'on peut nommer ce syndicaliste, c'est Philippe Martinez. Nous ne nous privons pas de...
de se faire des copains.
C'est important quand même de nommer ces gens.
Bien sûr.
Et de nommer aussi Yannick Jadot, qui est aussi parti dans des considérations tout récemment sur l'islam, sur l'islamisme, etc. etc. Ce grand fourre-tout dicté par la droite, que la droite a mis à l'agenda politique depuis très longtemps maintenant, et où la gauche, en effet, qu'elle soit syndicale ou politique, pour autant que les deux soient nettement démarquées, s'engouffre un peu trop souvent.
Bah, toujours sur des réactions surprenantes, c'est la journaliste Apolline de Malherbe qui déclarait lors d'une récente émission « Moi, j'avoue, j'hallucine quand même !» appelé à la grève maintenant, et ça c'était sa déclaration, à propos du personnel soignant qui en a marre, qui est complètement épuisé, et qui dit, bah, soit vous nous donnez les moyens de pouvoir faire notre métier normalement, soit on va tous mourir, donc on arrête juste avant.
C'est pas très nouveau, enfin c'est pas très nouveau par rapport au... En tout cas dans le dernier semestre, ça s'inscrit dans la... Tu te rappelles la fustigation des profs pendant le confinement, après le confinement, c'est-à-dire que c'est encore une fois la culpabilisation des gens qui sont en première ligne dans cette affaire, ou en tout cas de certains des gens qui sont en première ligne. Et par ailleurs, ça s'inscrit aussi dans cette longue histoire médiatique de fustigation de tous les mouvements sociaux, de toutes les grèves, etc.
Pourquoi tu as écrit Les Empoisonneurs ?
Parce que je voulais aller... J'ai déjà fait plusieurs bouquins sur ces gens, sur cette étitocratie réactionnaire, pour le dire vite, islamophobe et xénophobe. Et pour finir, je voulais aller sur un terrain où je n'étais pas encore vraiment allé, qui est celui de leur complaisance pour l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est des gens qui, pour faire passer leur... précisément leur islamophobie et leur xénophobie, depuis des années, lancent des accusations d'antisémitisme tout azimut, c'est-à-dire contre la gauche antiraciste, contre les musulmans, contre les migrants. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand ils sont confrontés, parce qu'on pourrait considérer à quelque chose qui ressemble d'assez près à de l'antisémitisme, à du bon vieil antisémitisme de droite, si j'ose dire, je mets évidemment toutes les guillemets qu'il faut à bon vieil, ou à du négationnisme, mais venant de leur rang, de leurs univers à eux. Et là, je me suis aperçu qu'ils sont extrêmement complaisants avec l'antisémitisme l'islamophobie n'est pas, un gage de non-antisémitisme, en fait, comme ils auraient tendance un petit peu à le suggérer.
Déjà, en 1997, Serge Halimi faisait la part belle, distribuait quelques claques aux journalistes avec son film « Les nouveaux chiens de garde ». C'est deux axes différents de mise en cause du travail des journalistes. du travail d'une partie des journalistes, parce que je reste convaincu qu'il y a des journalistes et qui font bien leur travail, mais oui, malheureusement pas tous. Donc, vous commencez ce bouquin, Les Empoisonneurs, en 1937, lorsque les éditions de Noël publient un pamphlet antisémite, Bagatelle pour un massacre.
Oui, de Céline. Ouais.
Donc. Et ensuite, tu poursuis en 2002 en taquinant quelques membres de l'Académie française. Alors, est-ce que l'Académie française, c'est un creuset de ces comportements, on va dire, orientés. Moi, je me souviens de Finkielkraut qui se fait débarquer par le taxi en pleine réunion des Gilets jaunes, ou qui, quelque temps avant, va participer, enfin, dans tous les cas, se présente dans une réunion de Nuit Debout. Est-ce que c'est pas de la part de ces personnes-là, juste de la provoque, pour qu'ils puissent continuer à exister, parce que s'ils n'ont pas ce terrain de médiatique, ça n'est pas au travers de leur pensée qu'on va s'intéresser véritablement à ce qu'ils font et à ce qu'ils écrivent.
Il y a une part dans le cas de Finkielkraut, par exemple, qui est un bon exemple, il y a effectivement une part de provoque à certains moments. Encore que c'est un mot dont peut-être il faut se... Mais en effet, quand il débarque ou quand il passe au milieu des Gilets jaunes, quand il débarque à Nuit Debout, il y a une part de provocation parce qu'il sait très bien qu'il va être mal accueilli. Il le sait, on le sait tous, c'est ce qui se passe, et ça fait le buzz, comme on dit joliment. Après, je vous répondrai ça quand même en disant que Finkielkraut, il n'a pas ou plus besoin de provoquer, entre guillemets, pour être invité partout, etc. Il est de toute façon un intervenant considéré comme légitime et régulier et fréquent du débat public tel qu'il est organisé par la presse et les médias. Donc, à la limite, provoque ou pas, et par ailleurs, en troisième ressort, on pourrait aussi considérer que dès qu'il ouvre la bouche, c'est d'une certaine manière de la provocation, parce qu'il ne dit strictement ou à peu près strictement que des atrocités, donc, ou en tout cas que des horreurs, n'allons pas jusqu'à l'atrocité.
Et puis on a eu encore récemment l'affaire Obono. Ouais.
Peut-être, moi, j'aimerais bien dire quelque chose sur l'Académie française, si c'est possible de revenir un petit peu en arrière.
C'est une antenne ouverte, donc tu peux tout dire.
Non, parce que moi, je trouve que c'est intéressant de porter un peu le projecteur sur ces lieux auxquels on ne s'intéresse pas forcément, qui sont censés être des lieux de la grande culture française, et qui, en fait, jouent un rôle important en termes de relais. Alors, dans le livre de Sébastien, enfin, il parle aussi des éditions Gallimard, c'est-à-dire, en gros, des institutions très respectables, mais qui jouent un rôle dans ce réseau d'éditocrates, de commentateurs régulièrement invités à la télé, maintenant, surtout. Et je trouve que c'est important de voir comment, en fait, cette pensée ultra-réactionnaire et d'extrême droite existe, pas seulement dans les médias, mais aussi dans ces lieux-là, et qu'ils utilisent cela aussi pour se légitimer. C'est-à-dire que il est plus facile de dire on va inviter Alain Finkielkraut, membre de l'Académie française, que Alain Finkielkraut, mais Sébastien pourra donner des exemples plus précis que moi, après les émeutes urbaines de 2005,
assorti des horreurs
sur les banlieues, qui régulièrement crie sa haine des féministes. Enfin, si on va un petit peu derrière le vernis et son langage un peu policé, un peu son français un peu châtié, on voit des horreurs qui dans le fond sont vraiment les mêmes. Et je pense que c'est important de déconstruire ça, de déconstruire aussi l'espèce de légitimité culturelle que l'appartenance à l'Académie française peut donner à quelqu'un comme lui ou à Hélène Carrère-Dancos.
C'est ça. C'est quand même surprenant qu'il y ait des personnages de la sorte, dont cette institution qui est quand même une grande institution, en tous les cas une institution très, très ancienne, largement misogyne, parce que la place des femmes est quand même très, très étroite. Je suis heureux que ma copine Barbara Cassin ait réussi à se faire élire, mais je n'imagine pas au prix de quelle tractation, de quel lobby, je ne sais pas, mais en tous les cas, elle est à l'Académie, elle peut porter la parole de la femme dans cette institution. Est-ce qu'il y a besoin de conserver le... On s'interroge à propos de la suppression de l'ENA, est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger aussi sur le rôle, l'utilité et la conservation ou pas de l'Académie française?
On pourrait.
Oui, on pourrait. Puis nous, on manque régulièrement de salles de cours à Paris 8, donc si on pouvait récupérer quelques locaux, ça pourrait nous être utile.
En plus, ce sont des jolis locaux.
En effet.
Mais il y a des journaux qui bénéficient du fonds stratégique pour le développement de la presse et l'aide à la diffusion, qui sont des aides directes de l'État à la presse. Et pourtant, ces journaux semblent se spécialiser dans la diffusion des thèses que vous dénoncez.
Oui.
Figaro, enfin, pour en citer au moins, qui est...
Il y a même des journaux qui sont encore plus à droite que le Figaro, ce qui n'est pas peu dire par les temps qui courent.
Ouais. Tu sais. Valeurs actuelles
ou... Valeurs actuelles, c'est un peu différent parce que l'État leur a coupé les vivres sous Hollande après que, si je ne m'abuse, ils avaient été condamnés pour incitation à la discrimination. Grosso modo, je crois que c'est ça qui s'est passé. En tout cas, ils n'ont plus d'aide publique. Donc, c'est un tout petit peu différent. Mais ils en ont eu pendant très longtemps, évidemment. Et par ailleurs, le quotidien d'extrême droite de ce pays continue, lui, à bénéficier d'aide publique à la presse.
Ouais.
Mais ce qui est présent, pour ne pas le nommer. Après, il se trouve que j'ai travaillé sur les aides publiques à la presse. J'ai fait un petit bouquin là-dessus il y a quelques années. Et ce qui m'avait le plus frappé, c'était évidemment la propagation de ces discours peu ou prou d'extrême droite, plutôt prou que peu d'ailleurs, mais aussi le fait que ce sont des titres qui ont un point commun qui saute aux yeux, c'est qu'ils ne supportent pas la dépense publique. Ils ne supportent pas les aides sociales, ils ne supportent pas que l'État vienne au secours des populations qui en ont besoin. Mais, curieusement, quand c'est pour eux, quand les aides publiques tombent dans leur escarcelle, tout d'un coup, ils seront beaucoup plus discrets et ils les trouvent, ma foi, assez bienvenus.
Et les chaînes de télévision n'hésitent pas à recruter des journalistes engagés comme Eugène Bastier, qui devrait quitter BFM s'il ne l'a pas déjà fait, pour rejoindre CNews, où il va rejoindre Charlotte Dormelas, qui était journaliste à l'heure actuelle, et aussi un certain Éric Zemmour, que tu dois beaucoup, beaucoup apprécier.
Infiniment. Non, mais voilà, une fois que tu as dit Zemmour, tu as tout dit, parce que lui est clairement raciste. Il a été condamné pour ça, il a été condamné plusieurs fois, deux fois, pour incitation à la haine ou à la discrimination raciale ou religieuse, ce qui est à peu près la définition d'un raciste. Et ça lui vaut d'être embauché partout, quoi, en gros, de passer partout et d'être embauché partout. Ça lui vaut de faire la tournée des médias 24 heures sur 24 et par surcroît d'être des propositions d'embauche, en fait. Donc c'est une façon de valoriser un CV d'une certaine manière d'être raciste aujourd'hui.
C'est ça. Et quelle est la liberté des journalistes? Est-ce qu'ils ont l'obligation de servir la soupe qui leur est commandée par leur rédacteur en chef ou leur direction ou les actionnaires? Est-ce qu'ils ont la possibilité de faire leur travail comme ils devraient le faire? J'espère, comme on leur enseigne dans les écoles de journalisme.
Vaste sujet, les écoles de journalisme. Mais oui, bien sûr qu'ils ont là, ils ont aucune obligation. Il n'y a aucune obligation nulle part écrite de déférer à tel ou tel commandement. Après, il faut pondérer tout ça, parce qu'il y a des situations individuelles, économiques, etc., qui font que ce n'est pas toujours évident d'aller contre une direction, d'aller contre une hiérarchie, voire même d'aller contre, si tu veux, d'aller contre une ambiance, un ton général. En revanche, je pense qu'il faut aussi faire attention à distinguer entre journaliste et Éric Zemmour, par exemple. Tu vois, c'est pas, en réalité, c'est pas tout à fait la même chose. Ou,
à Marseille, il y a un truc qui est surprenant. Jean-Pierre Foucault et Pape Diouf, dont le président de l'Olympique de Marseille, ont créé une école de journalisme il y a 4-5 ans, mais qui en fait est l'école de journalisme qui accueille tous les gamins qui n'ont pas été acceptés dans l'école de journalisme de l'Éducation nationale.
Jean-Pierre Foucault ?
Ouais.
Le gars de la télé ?
Ouais.
D'accord, j'ignorais.
Moi, je suis Marseillais de Marseille, donc je connais les histoires et les petites histoires. Mais pas du tout. Ouais.
Et donc, c'est une espèce d'école de journalisme alternative, entre guillemets.
Oui, c'est ça. C'est... Mais qui délivre un diplôme, mais qui n'a de valeur que la valeur qu'un journal ou une radio va lui accorder après.
Mmh. C'est intéressant. Ouais.
La reconnaissance d'un média s'effectue au travers du nombre de ses lecteurs ou de ses auditeurs. Ces médias diffusent ou écrivent ce que leur public souhaite lire ou entendre. Donc on ne peut pas jeter la pierre aux médias. On ne peut pas jeter la pierre aux actionnaires qui orientent bien leurs journalistes. Puisqu'ils servent ce que les auditeurs, les lecteurs ont envie de lire et d'entendre.
Je te laisse répondre.
Je vous taquine juste un peu.
J'ai bien compris. En fait, moi, je dirais comme Pierre Bourdieu a écrit un texte important qui a intitulé « L'opinion publique n'existe pas », on pourrait dire aussi que les auditeurs et les auditrices n'existent pas. C'est-à-dire que… Enfin, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En fait, c'est un artefact. C'est-à-dire qu'on fait exister quelque chose qui serait prétendument homogène, qui serait une voix homogène, qui serait porteur d'envie d'entendre certaines choses. Et ça, c'est quelque chose qui est instrumentalisé pour dire « vous voyez, c'est ça qu'on nous demande de faire. Vous voyez, c'est ça que les gens aiment bien. » En fait, d'où viennent ces fameux auditeurs ? Est-ce qu'ils sont allés les voir ? Comment ils les ont interrogés ? Qu'est-ce qu'ils leur ont demandé ? On ne le sait jamais. Donc, tout cet argument, déjà…
C'est sondage, comme on fait des audimètres pour savoir…
Regardons de près, alors, les sondages. Regardons comment ils sont fabriqués, regardons quelles questions sont posées, regardons quand on demande quelles sont les choses qui intéressent ou préoccupent les gens, ce qu'ils répondent, est-ce qu'on leur pose des questions fermées, est-ce qu'on leur pose des questions ouvertes, et souvent on a des résultats qui sont assez intéressants et qui montrent que par exemple les gens, quand on leur demande ce qui leur font le plus peur, ce qui est le plus porteur d'insécurité, eh bien souvent c'est des questions économiques, c'est de savoir comment on va se loger, si on va garder son emploi, etc., bien plus que des hordes de musulmans ou de migrants qui déferleraient sur la France. Ouais. Donc ça, c'est un argument qu'il faut quand même déjà largement déconstruire, hein, qu'il y aura un public qui serait demandeur de ça. Et la deuxième chose qu'on peut répondre, quand même évacuer la question, c'est que je pense que cette opinion publique, ou ce public, ou en tout cas certains parmi ces auditeurs, sont aussi façonnés parce que ces journalistes ou ces éditocrates disent quotidiennement. De fait, il y a une influence. Comment on peut la mesurer ? C'est difficile, c'est des questions difficiles, mais c'est quand même des gens qui participent à une certaine ambiance, à une certaine idéologie, et qui participent aussi à rendre légitime ces thèses d'extrême droite, ou cette pensée d'extrême droite, ou ces amalgames. Et puis, peut-être le dernier argument qu'on pourrait dire pour déconstruire ça, c'est de dire que, oui, en effet, on voit que Zemmour, il vend des centaines de milliers d'exemplaires, en effet, l'audimat, ce fameux audimat montre que il a un certain succès. Moi, je pense que c'est lié aussi au fait que d'autres auteurs, d'autres essayistes, d'autres journalistes n'ont pas toute la facilité, n'ont pas la possibilité de s'exprimer, de proposer des émissions, de monter des journaux, qu'ont c'est toute cette frange en fait ultra réactionnaire qui, Sébastien le montre bien dans son livre, une place maintenant prédominante. Et je pense que si on ouvrait davantage, et on devrait le faire, puisque l'État subventionne tout ça, donc au nom de la fameuse neutralité, on devrait aussi encourager d'autres voies. Et en fait, c'est extrêmement difficile, de plus en plus difficile aujourd'hui, quand on a une pensée de gauche, une pensée critique, une pensée alternative, de la faire entendre dans le débat public. Alors, il y a d'autres lieux maintenant, il y a des sites, il y a des blogs, et puis il y a encore quelques journaux de gauche, mais c'est très difficile. Il y a un déséquilibre, en fait, énorme qui interroge d'un simple point de vue démocratique.
Justement, quels sont les moyens dont disposent les chercheurs, les enseignants, les intellectuels, les journalistes pour diffuser leur point de vue et leurs pensées? Et comment pourraient-ils s'organiser pour que leur point de vue soit davantage entendu? Je pense notamment aux économistes des intérêts qui, eux, se sont organisés pour proposer d'autres explications économiques que celles qui sont diffusées très régulièrement.
Je laisse le journaliste de gauche répondre.
Réponds sur les chercheurs.
Nous, on a quand même la chance, en tant qu'enseignants et enseignants-chercheurs, d'avoir des espaces aussi où... Mais il ne s'agit pas de diffuser une idéologie. Moi, je ne fais pas un cours politique à mes étudiants, à mes étudiantes, hein, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, j'essaye de les rendre sensibles à un esprit critique, en leur faisant lire une diversité d'auteurs, de textes, etc., et à exercer leur esprit critique, et notamment à comprendre le rôle que les médias aussi, ou que certains intellectuels peuvent jouer dans la fabrication aussi de l'ordre politique et d'un ordre politique qui est quand même largement injuste. Alors, le contexte est difficile. Hier, ce qu'on appelle la LPPR, c'est la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, a commencé à être examinée à l'Assemblée nationale. C'est une loi absolument catastrophique qui remet en cause le statut des chercheurs et des enseignants-chercheurs, hein, qui poursuit le mouvement de démantèlement du service public de la recherche, qui va encore rendre les conditions d'enseignement de recherche plus compliquées. Donc, ce n'est pas un contexte super favorable. Mais en même temps, il y a beaucoup d'endroits qui existent, je ne sais pas, des radios, comme celle où tu travailles. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de lieux alternatifs. Le problème, c'est que c'est des lieux qui travaillent avec peu de ressources, notamment économique, donc qui marche sur la bonne volonté et c'est de fait difficile.
Oui, en fait. Reste confidentiel, même si Radio Galère, c'est la première radio libre qui a été créée à Marseille. Et Galère, ça veut dire groupement des associations libres pour la diffusion. Mais en même temps, aujourd'hui, se tient l'audience du tribunal de commerce pour la poursuite ou pas du journal La Marseillaise. C'est-à-dire que si la proposition de reprise qui est apportée par une Maritima Communication, qui est une société d'économie mixte, en tous les cas un groupement à la fois de communes, mais aussi de financeurs, si cette proposition n'est pas retenue, il ne restera plus qu'un seul journal à Marseille, qui est La Provence, que je n'ai pas envie de qualifier, dont le principal actionnaire est Bernard Tapie. Même s'il est malade, il a fait suffisamment de dégâts autour de lui pour être un peu malade. C'est très bien quand on a le souffle, mais parfois, c'est pas pire que ça. Depuis l'épidémie de coronavirus, on entend de nombreux journalistes qui se sont transformés en chroniqueurs scientifiques et qui déversent péremptoirement leurs analyses et leurs opinions au travers, pareil, des médias et des journaux dominants. Qu'est-ce que vous pensez de ces journalistes-là, hommes et femmes, tous sont pour eux, qui, il n'y a pas très longtemps, étaient des experts économiques, alors que je ne suis pas sûr qu'ils aient suivi beaucoup de cours d'économie, mais qui aujourd'hui se transforment en experts scientifiques et qui autorisent. Et qu'on aime ou pas Didier Raoult, il fait partie des grands chercheurs et des gens qui connaissent bien l'épidémiologie. Comment c'est possible, à part, encore une fois, cette volonté de servir de la soupe? de servir ce que les gens ont envie d'entendre ronronner dans leurs oreilles.
C'est ce que tu disais tout à l'heure quand on avait fait ce. Tu parlais du livre Les Éditocrates et de sa suite d'ailleurs, qui étaient des ouvrages collectifs. Et le premier, on l'avait sous-titré Comment parler de tout en racontant absolument n'importe quoi, pour définir un peu rapidement et vitement ce qu'est un ou une éditocrate. Voilà, c'est peut-être que la meilleure caractérisation, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont capables de parler de tout en racontant n'importe quoi, mais qui ont quand même cette ressource d'avoir un avis sur tout et de considérer qu'il est éventuellement passionnant, voire pertinent. Après, sur Didier Raoult, je te laisse, je te laisse le jugement que tu formules sur lui, qui n'est pas le mien, parce que je pense qu'il est typiquement une figure d'intervenant médiatique,
mais parce qu'on
un peu auto-fabriqué. Voilà.
Parce qu'on lui a proposé cette tribune. Ce mec-là, ça fait.
Et qui s'est quand même empressé de refuser, quand même. Il n'est pas, il n'y a pas que les médias dans cette histoire. Il y a aussi Didier Raoult.
Il y a même une interview avec Pauline Malherbe.
Ouais, je veux dire, il déteste pas parler de lui-même, manifestement. Et il déteste pas cette surexposition médiatique.
Moi, j'ai pas envie de défendre qu'on ait Didier Raoult. Je considère qu'il n'a pas toutes les qualités. Lorsqu'il a créé l'IHU à Marseille, ça a coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Et bien évidemment, cet argent a été pris dans la masse qui était destinée au soutien d'autres des labos. Donc, il y a plein de labos qui se sont trouvés démunis, mais parce que lui a récupéré beaucoup de pognon. Et en même temps, c'est un mec qui a droit et qui agit, qui a su. Bernard Arnault faisait partie de son conseil d'administration à la création, mais comme de grands labos pharmaceutiques. Alors aujourd'hui, ils s'en défendent, disant, mais c'était l'obligation du cahier des charges et aujourd'hui, ils ne sont plus dans le.
Si Bernard Arnault ne venait pas, on ne pouvait rien faire. C'était dans le cahier des charges.
Donc, tu viens de parler, Sylvie, de la pensée unique, de comment tu abordes les sujets avec tes étudiants et aussi, vraisemblablement, comment tu fais tes propres recherches et comment on pourrait accélérer cette capacité à avoir un avis éclairé, en tous les cas à s'interroger lorsqu'on reçoit de l'information. Et est-ce que la population est prête à faire cet effort de désappropriation de confort? Parce que c'est vachement agréable de se faire caresser dans le sens du poil, sans s'interroger sur ce qu'il y a derrière. C'était il y a quelques années, McDonald's faisait le tour des collèges, et proposait d'installer un téléviseur et un magnétoscope, quand je dis il y a quelques années, vous voyez à quelle époque ça pouvait se passer. Et la seule obligation qui était imposée à ces établissements, c'était que les gamins regardent la télé 20 minutes par jour. Mais les établissements qui n'avaient pas de pognon, qui n'avaient pas d'argent, étaient bien contents d'avoir un magnétoscope et un téléviseur. Sinon, ils ne mesuraient pas les dégâts qui pouvaient être faits par le fait de regarder 20 minutes de réclame journalière. C'était le patron de TF1 qui disait que son métier, c'était de vendre du cerveau disponible. Ça n'a jamais changé. Enfin, me semble-t-il, mais vous êtes, vous, davantage spécialiste. Moi, je ne suis qu'un observateur citoyen.
Moi, je pense que ça ne fait pas plaisir à tout le monde de regarder la télé et qu'en fait, pour reprendre ce que tu disais, enfin ton expression se faire caresser dans le sens du poil, je pense que par exemple, pour les musulmans ou les personnes de culture musulmane, c'est ultra violent en fait de regarder la télé. Et ça depuis des années. Et je pense aussi que par exemple, quand on est une femme, et quand on écoute Éric Zemmour incriminer les féministes ou Finkielkraut se vanter soi-disant avec humour de violer sa femme, en fait c'est super violent, et je pense que pour plein de gens En fait, aller dans un bistrot et voir CNews ou autre, c'est super. C'est pénible, quoi. C'est pénible. Et alors, je pense que ce qui rend possible ça, c'est que, en effet, souvent, ça fait un peu, c'est un peu comme si c'était de l'eau tiède. C'est-à-dire, c'est un flot d'eau tiède, un peu en continu. C'est d'ailleurs des chaînes d'information en continu. Donc, on y prête plus forcément attention. Mais je pense qu'il y aurait un truc intéressant à faire, une enquête sur la manière dont les gens en fait vivent maintenant dans beaucoup de lieux publics avec ces chaînes atroces, avec CNews notamment, mais les autres sont pas tellement mieux. Et donc je pense que ça c'est important de le garder à l'esprit, c'est-à-dire on se bat contre des puissances en fait, des gens qui ont énormément d'argent, qui ont une grosse force de frappe, mais leur pouvoir de séduction, je pense qu'il faut pas le surestimer. Et donc, il ne faut pas non plus sous-estimer l'intérêt, enfin bon, peut-être que j'essaie de rester optimiste, mais l'intérêt peuvent susciter des lieux alternatifs, des médias alternatifs, des lieux d'éducation populaire, avec des plus petits moyens, mais peut-être qu'avec une influence ou en tout cas un effet qui sera moins superficiel que des heures et des heures de blabla de je ne sais pas quel pseudo spécialiste qu'on va écouter ou même pas écouter d'une oreille et dont on ne va absolument rien retenir. Donc pour moi, ce qui est hyper important, c'est d'essayer de maintenir tant bien que mal ce qu'on fait par nos sites, par ce qu'on écrit, par ce qu'on dit, etc. Enfin, en restant aussi critique parce que ma foi, voilà, il faut aussi s'interroger soi-même. Mais maintenir ça, maintenir ces lieux et puis faire vivre quand même une culture, une contre-culture quand même. Une contre-culture qui met en avant l'égalité, la démocratie, et puis qui les livres, les éditocrates ou ce que fait Sébastien l'illustre assez bien, le fait aussi avec humour, parce que c'est aussi une arme qui doit être la nôtre et qui est certainement pas la leur, parce que s'il y a quelque chose que ces gens-là sont, c'est vraiment qu'ils sont sinistres, quoi. Ils sont vraiment tristes à pleurer. C'est triste de les regarder parce que c'est tragique, mais ils sont aussi vraiment sinistres. Voilà.
Moi, j'entends pas de revendications citoyennes pour qu'il y ait des collectifs de citoyens dans les conseils d'administration, chez Radio France ou dans les chaînes de télévision nationale.
Malheureusement, je crois que, je sais plus, il y avait une enquête qui avait montré que, je crois, les Français étaient... je faisais aussi peu confiance aux journalistes qu'aux hommes politiques, quelque chose comme ça. En fait, je pense qu'il y a une désaffection très forte des gens pour les médias, même s'ils vivent avec la télé. Je pense qu'il y a un sentiment de très forte méfiance, un désintérêt. Et je ne pense pas que c'est là où les gens voient que quelque chose peut changer. Alors, je ne sais pas, hein, je dis ça, il faudrait peut-être creuser. Mais je ne suis pas sûre que c'est là où ils se disent « Ah, on pourrait changer les choses dans notre quotidien, en fait, pour nous. »
Justement, mais pour poursuivre sur ce que tu dis, est-ce que les gens, les citoyens au sens large, sont prêts à faire des efforts, à la fois pour s'engager davantage, et aussi pour accepter de perdre quelques-uns de leurs avantages ou de leurs privilèges?
C'est-à-dire que c'est un peu délicat de demander, par exemple, quels avantages et quels privilèges, parce qu'ils renoncent quand même à beaucoup disons, acquis sociaux, les gens, depuis pas mal d'années maintenant. Donc, je ne sais pas si on pourrait leur demander ou demander que, collectivement, on renonce à... j'aime pas tellement parler d'avantages et de privilèges, tu vois ce que je veux dire, mais... je ne sais pas si on devrait collectivement faire des sacrifices pour, par exemple, accéder à une information moins univoque ou moins droito-orientée.
Raconter autrement, c'est changer de comportement. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chez Carrouf ou chez Auchan pour faire ses courses, je vais faire mes achats chez mon épicier de quartier.
Ouais, mais c'est. Enfin, je vais. Bon, laissons un regard sociologique sur ce.
Mais c'est compliqué, ouais. Parce que les gens sont dans ce flux quotidien d'obligations professionnelles, familiales, etc. Donc, c'est plus facile d'aller dans le grand magasin où on va trouver tout de suite. rassemblés.
Et surtout, c'est moins cher. Et surtout, c'est moins cher.
Ça, c'est pas
Alors,
cher.
Là, c'est pas cher. Maintenant, il y a d'autres lieux qui se montent, des coopératives qui font attention à pas seulement proposer des produits bio, mais des produits abordables, enfin, que ça ne crée pas un nouveau clivage de classe. Mais il faut faire attention parce que, de fait, en effet, aller chez Carrefour ou dans les grands magasins, enfin, moi, c'est vrai que c'est des lieux atroces qui embauchent des salariés avec des conditions de travail atroces. Et en même temps, si les gens y vont, c'est-à-dire que c'est un peu difficile sans qu'ils le perçoivent comme quelque chose d'incriminant qui vient un petit peu en surplomb. C'est quand même difficile de leur dire allez pas faire vos courses à Carrefour parce que vous donnez de l'argent à la grande distribution, puis vous achetez de la merde, etc., etc. Je pense que c'est compliqué. C'est aussi parce qu'il y aura une autre offre. Pas seulement les petites épiceries de quartier, parce que malheureusement, elles sont souvent quand même chères, mais on inventera d'autres lieux aussi. C'est parce qu'il y aura une autre offre que ce sera possible de faire basculer aussi les gens. Mais c'est quand même difficile aussi, pour la raison qu'évoquait Sébastien, c'est parce que c'est vrai que quand déjà on a subi tellement de casse sociale, quand on subit tellement de précarité, quand la préoccupation, c'est tout simplement d'avoir assez de revenus pour manger et puis pour payer son loyer, c'est quand même difficile de garder un petit bout d'espace mental pour se dire est-ce que Carrefour c'est pas juste dégueulasse, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse un effort de je pense que le terme effort il nous fait un petit peu tiquer, je crois, parce que je crois que c'est un peu compliqué de demander à des gens qui mordent déjà tellement
de faire encore, mais je suis bien conscient de tout ça. Très belle coopérative à Paris, qui est la Louve, qui en fait est une coopérative de distribution de
oui.
produits alimentaires et sanitaires.
Oui.
Et chaque coopérateur doit donner, oui. je crois que c'est 3 heures par semaine ou par mois.
C'est un super système, ouais. C'est vraiment intéressant.
Il y a une partie des personnes qui sont nécessaires pour faire tourner ce magasin qui sont des salariés et aussi des coopérateurs. Et le comptable va faire le ménage ou va mettre en rayon les produits. Et je trouve que c'est une belle initiative qui tente de s'installer à Marseille avec moult difficultés parce que c'est toujours pareil, l'argent pour acheter le fonds de commerce ou pour payer les loyers.
Non, mais il y a d'autres lieux hein, à Paris, en région parisienne aussi, qui sont vraiment dans cet esprit-là. Et c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Ouais.
On critique toujours les États-Unis, mais c'est quand même une initiative qui est née aux États-Unis.
Donc,
ils ne font pas que des tromperies. Et Sébastien, maintenant, si tu nous parlais quand même de ton bouquin.
Comme ça.
Ben oui, comme ça.
Comme ça, dépourvu. Non, mais je t'en ai.
Alors, juste pour te laisser le temps de réfléchir, moi, quand j'ai vu la couverture, les encriers avec une tête de mort et la plume qui trempe dedans, c'est vraiment de l'encre empoisonnée. C'est plus de l'encre sympathique, c'est de l'encre pour tuer.
C'est pas mal, hein. J'étais content quand l'éditeur m'a.
Et c'était dans le Au nom de la rose, c'est bien ça? Où les moines s'empoisonnaient parce qu'ils touchaient l'encre des manuscrits.
Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé au nom de la rose. Mais j'ai trouvé que c'était c'était bien trouvé, que c'était une jolie couverture. Qui collait tout à fait au titre et au propos. Après, sur le livre, je t'en ai dit l'essentiel. Enfin, non, je t'en ai pas dit l'essentiel, mais je t'ai dit ce qui m'avait motivé à le faire.
Tu dis aux auditeurs. Pourquoi ils doivent aller l'acheter? Est-ce qu'ils vont trouver?
Parce que ça serait très gentil.
Non, mais ça ne suffit pas. En plus, c'est vraiment pas cher, 10 euros. Vraiment, c'est un petit prix. Mais c'est.
Non, mais c'est une espèce
Moi,
de.
Moi, je l'ai lu comme une gourmandise. C'était un bonbon après l'autre.
Ouais, mais c'est pas. C'est, j'espère
Moi, que
c'est
un lecteur.
Que ça soit que ça, hein, parce que c'est une espèce de regard un peu sur maintenant les 20 années qui viennent de s'écouler, un regard un peu rapide, hein, c'est pas un long livre, sur l'espèce de progression ou de banalisation plus précisément, pour le dire de façon très synthétique, de la banalisation de la parole raciste dans la presse et dans les médias pendant 20 ans. Et par parole raciste, j'entends non seulement islamophobe et xénophobe, mais aussi, et c'est important de le dire, antisémite. Voilà. Le vrai pitch du livre, ça serait celui-là. Je pense qu'il s'inscrit un peu dans une époque où on vérifie. Là où je ne suis pas mécontent de ce livre, c'est que je pense qu'il tombe pas mal dans l'époque parce qu'il dit ce qui se passe et je trouve que notre quotidien le valide tous les jours. Je vois passer des atrocités et je me dis ça ne s'arrêtera jamais.
Un exemple peut-être sur Renaud Camus, c'est intéressant.
Je ne sais pas.
Ah, tu as été son éditrice pour l'écriture du livre, c'est dit ? Tu as été l'éditrice de Sébastien ?
Ah non, moi je l'ai relu avec grand plaisir et beaucoup d'intérêt. Mais
tu ne l'as pas accompagné dans l'écriture ?
Bon, on en a beaucoup parlé, oui. Oui, non, c'est sûr, oui. Mais moi, je pense qu'il y a en effet une très grande originalité dans ce livre, c'est d'aborder une question, et je pense qu'il gêne beaucoup de monde. C'est en effet cette très grande complaisance par rapport à la question négationniste et à la question de l'antisémitisme, en effet. Et c'est quelque chose qui est assez peu dit, je pense qu'il gêne quand même beaucoup, et qui est quand même généralement beaucoup instrumentalisé par ces gens-là, hein, qui reprochent à la gauche, aux musulmans, aux gens de banlieue, d'être antisémites, et qui sont quand même extrêmement suspects de ce point de vue-là. Là, moi, je pense que c'est une grande originalité du livre. Et puis, je pense qu'il y a enfin, la manière dont il est organisé aussi rend le livre vraiment plaisant à lire, et c'est quand même pas évident de rendre plaisant à lire un livre qui nous raconte autant d'horreurs, c'est qu'il nous fait dérouler une période. Et ça, c'est aussi assez... c'est des petits chapitres, en fait, qui reviennent sur des épisodes qu'on a plus ou moins gardés en tête. Hein, souvent, ça nous rappelle des souvenirs, parfois on a complètement oublié, mais qui font comme ça le récit d'une progression et d'une banalisation, en effet, comme disait Sébastien, à partir de choses très, très concrètes, qui est écrivain on va commémorer, enfin quel écrivain l'État français va faire rentrer au patrimoine national, ou tout simplement qu'est-ce qu'on dit et comment, qu'est-ce qui se passe dans le débat public quand Renaud Camus dit, c'est le livre s'ouvre là-dessus, donc c'est quelle année, c'est
2000.
En 2000, Renaud Camus, alors je voudrais, tu vas citer parce que moi il faut faire attention à le citer de façon exacte.
De quoi
sur France Culture.
Renaud Camus trouve que sur France Culture, dans un créneau horaire donné, il y a, je cite, il dit très précisément, les collaborateurs juifs sont en nette surreprésentation. Et ça passe pas très bien, mais il se trouve des gens pour dire que non, il n'y a rien d'antisémite dans tout ça. Bon, en particulier, Finkielkraut va se précipiter à son secours en disant que non, vraiment, ce serait un petit peu exagéré que de considérer qu'il est raciste, de déclarer que les juifs sont trop nombreux à l'antenne de ce qu'il appelle un poste national entre telle heure et telle heure. Ça rappelle pourtant des moments un petit peu désagréables.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Et c'est vrai que quand on met en rapport ça avec ce qui se passe quand une syndicaliste étudiante vient à l'Assemblée nationale avec un foulard, et quand on voit le tollé que ça suscite, ça donne un peu le vertige, c'est-à-dire qu'on se dit qu'un propos clairement antisémite, enfin qui puise à un registre très connu de l'antisémitisme, en fait, a suscité des réactions, mais aussi voit certaines personnes de premier plan arriver à sa rescousse, et les mêmes qui vont participer à... au déferlement d'hostilité quand il s'agit d'une femme musulmane. Donc voilà, je trouve que c'est bien de revenir parce que c'est des cas précis et ça nous permet aussi de mettre en perspective et de faire comparaison aussi. Voilà, qu'est-ce qui choque aujourd'hui et qu'est-ce qui ne choque pas, qu'est-ce qui est considéré comme scandaleux et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du point de vue justement de la question du rapport à la Seconde Guerre mondiale, de la question de l'antisémitisme, ça fait quand même assez peur.
J'entendais hier à propos des déclarations du ministre de l'Éducation nationale, ces jeunes filles disaient « Mais laissez-nous nous habiller comme nous en avons envie, simplement apprenez aux garçons à nous respecter. » Je crois qu'on est toujours dans cette société très très masochiste. On ne voit pas une pub de parfum sans une femme quasiment dénudée pour faire la réclame d'un produit de luxe. C'est juste.
On est quand même dans un pays qui vient de dont le président vient de propulser au ministère de l'Intérieur quelqu'un qui est toujours visé par une plainte pour viol, très simplement. Je pense que c'est un excellent résumé de ce qui se passe. Blanquer s'inscrit d'une certaine manière dans cette espèce de mini et très récente tradition, avec ce petit truc en plus maintenant, qui est que c'est l'argument, une nouvelle fois, de la République, la défense de la République, ce grand mot qui sert à tellement de trucs écœurants en ce moment, qui va déterminer finalement la vêture des écoliers ou des collégiens ou des lycéens. C'est de plus en plus hallucinant en réalité. Cette façon d'introduire un critère républicain dans la façon de s'habiller est quand même une toute petite nouveauté quand ça concerne tout le monde. Avant, il était juste anti-républicain, disait-il, par exemple, de porter le foulard. Maintenant, il va être aussi anti-républicain de porter un short, etc. C'est très, très étonnant.
Après, ce qui est intéressant de constater, c'est que le désir de contrôler la manière dont les gens s'habillent, systématiquement, ça cible des femmes, ou des jeunes femmes, ou des jeunes filles, ou des filles. Systématiquement, c'est-à-dire l'obsession de comment les gens s'habillent, c'est vraiment une obsession masculine et qui est quand même qu'il faut mettre en rapport avec ce qui est quand même un élément du patriarcat, c'est-à-dire le contrôle du corps des femmes. Et c'est intéressant de mettre ça en rapport aussi avec le délire qu'il y a eu, qui a malheureusement toujours, enfin un peu moins à l'école, le délire qu'il y a eu depuis 2004, hein, 2003-2004, sur la question justement du foulard à l'école. Et je pense que là, il y a un lien entre tout ça et de mobiliser la grille de lecture féministe pour le comprendre est intéressant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des éléments vestimentaires masculins ou dits masculins qui ont suscité ou qui suscitent autant de débats, autant d'indignation. Je pose la question, là, j'essaye d'y réfléchir, peut-être qu'il y a des exemples, j'en sais rien, là je ne le vois pas, mais je ne crois pas. Je crois qu'il y a un vrai décalage et que ça quand même, ça participe de cette obsession, en effet, d'un corps des femmes qui s'affirmerait librement. Et qui est quand même délirant, parce que quel mal en fait elles font quand elles portent un foulard, quand elles portent un short, quand elles portent je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'au vu des violences hallucinantes qu'il y a dans notre société, je veux dire, il y a quand même plein de choses dont on pourrait s'inquiéter, qui sont des vraies violences, hein, symboliques, physiques, etc. Enfin, des inégalités, des injustices, etc. C'est-à-dire, quel est le mal? Je dis, il faudra vraiment revenir à des choses très basiques. Quel est le mal, finalement? Le mal à qui? C'est-à-dire, ça fait chier. Ça fait chier du monde, mais en fait, c'est rien, quoi. Et bon, voilà, c'est assez sidérant.
C'est Pierre Cardin qui lance le smoking, donc qui habille les femmes en pantalon, et qui est complètement honni. Et l'interdiction, l'abrogation de la loi prenant l'interdiction du port du pantalon pour les femmes, c'est quand même pas très ancien. Donc, les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon. Aujourd'hui, mais peut-être qu'il faut rappeler à tous les jeunes les combats qui ont dû être menés pour faire évoluer cette pensée largement machiste, dominatrice. On en voit encore la domination dans les entreprises. Très peu de femmes sont à la tête d'entreprises importantes. Souvent, pour qu'une femme réussisse, il faut qu'elle en montre 20 fois davantage que ce que font les hommes, simplement pour qu'on lui laisse un morceau de strapontin. C'est même pas pour la reconnaître dans ses grandes qualités, dans ce qu'elle est capable d'accomplir.
Pas seulement dans les entreprises, parfois dans les universités aussi.
Ben oui, même. Enfin, c'est.
Mais je pense que c'est important de rappeler les combats anciens. En même temps, parfois, ils sont aussi instrumentalisés. C'est-à-dire qu'il y a aussi un mouvement pseudo-féministe qui va consister à dire oui, on s'est battu en fait pour pouvoir s'habiller comme on veut. Et maintenant, regardez ces filles dans les banlieues qui ne peuvent plus se mettre en jupe, etc. Et on va se battre pour que les filles puissent se mettre en jupe. Et la jupe devient le symbole obligé de l'émancipation féminine. Et ça, c'est aussi des discours qu'il faut déconstruire parce que ça devient aussi une injonction. Et en fait, il n'y a pas un vêtement plus émancipé ou émancipateur qu'un autre. C'est vraiment le sens que leur donnent les femmes qui le portent qui fait que ça traduit pas forcément une émancipation, juste parce qu'on a envie de s'habiller d'une telle manière ou d'une autre. Donc, je crois qu'il faut faire attention aussi à la manière dont les arguments féministes peuvent être retournés, peuvent être instrumentalisés, parce qu'aujourd'hui, il y a une plus grande légitimité du discours de féministe. Donc on dit toujours c'est au nom des femmes, c'est au nom des femmes. En fait, il faudrait juste foutre la paix aux femmes, et quand elles veulent s'habiller d'une manière ou d'une autre, juste on dit rien, quoi.
Moi, je dis toujours à mes copines féministes, mais bon sang, faites avec les mecs. C'est pas possible que vous organisiez le changement des mentalités, le changement des comportements vis-à-vis des femmes, si vous le faites sans que les hommes participent à cette même volonté de changement. Et trop souvent, moi, je les trouve adoptant des comportements masculins et non pas des comportements féminins.
Moi, je ne sais pas trop bien ce que c'est que des comportements féminins ou des comportements masculins. Moi, ce qui me plairait, c'est qu'il n'y ait plus ni comportement masculin ni comportement féminin. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des injonctions comme ça, genrées, avoir des comportements qui relèvent d'un sexe ou qui relèvent d'un autre, en fait. Parce que je ne saurais même pas vraiment définir ce que c'est qu'un... je peux définir ce que c'est qu'un comportement masculin, c'est-à-dire qui renvoie à des normes sociales qui sont considérées d'ailleurs comme généralement supérieures. Des normes féminines, mais pour moi, c'est avant tout des normes sociales, et c'est des normes sociales qui construisent aussi la hiérarchie, de fait. Parce que les normes féminines, c'est toujours des normes qui favorisent le désir de plaire, la douceur, la beauté, l'apparence, le care, etc. Et les valeurs masculines, elles sont plutôt orientées vers la force, l'ambition, l'énergie, etc. Donc, c'est aussi, à mon avis, des choses à questionner, cette binarité entre normes féminines et masculines.
Je vais me plonger quelques instants dans le rôle de l'empoisonneur. Mais ce sont quand même les femmes, ce sont les femmes qui font l'éducation le plus tôt des enfants. Et ce sont les femmes qui transmettent ces valeurs que tu viens de dénoncer, ces comportements que tu viens de dénoncer.
Malheureusement, ce sont elles, en effet, qui sont en charge pour beaucoup, de l'éducation des enfants, en tout cas de certaines tâches. En effet, l'inégalité, elle est criante de ce point de vue-là. Après, les hommes interviennent et savent intervenir quand ils essayent d'inculquer certaines manières de voir, certaines manières de faire qui sont pour eux décisives. Notamment élever leur petit garçon comme un vrai petit mec. Les hommes, ils sont présents. Quand il s'agit d'aller le faire jouer au foot ou l'accompagner au judo, là peut-être qu'il va être plus présent que s'il faut, faire à manger.
C'est la maman qui amène l'enfant chez le médecin et c'est le papa qui amène le gamin.
Voilà, exactement. Donc c'est vrai que c'est un argument aussi d'incriminer les mères, les fameuses mauvaises mères qui sont toujours un peu mauvaises d'une manière ou d'une autre, qui transmettraient les stéréotypes. Mais en fait, au-delà des mères, mais toute la société en fait fait faire l'apprentissage aux enfants du sexisme à l'école, dans la rue, à la télé, absolument partout. Et c'est en fait très difficile souvent pour les mères. Moi, j'ai pas mal de conversations là-dessus, notamment avec des femmes qui disent mais je me bats, je veux avoir une norme parentale ou éduquer mes enfants féministes. Et c'est en fait super compliqué parce qu'en fait, on se bat avec l'industrie du jouet, on se bat avec ce qu'on raconte à l'école, on se bat avec ce qui se dit dans la cour de récré. Et en fait, c'est super dur. Donc, je crois que les mères, elles font ce qu'elles peuvent. et que, à mon avis, le combat féministe, c'est toutes ces institutions et puis les pères aussi qu'il faut mettre en cause.
Quel est ton prochain livre, Sébastien ?
Ça n'a aucun rapport avec ce sur quoi j'ai écrit jusqu'à présent. C'est un livre sur Tolkien, sur l'auteur du Seigneur des Anneaux.
D'accord.
Voilà, ça m'emmène un peu loin de mes sujets habituels et c'est assez reposant, je dois te dire. Il sera quasiment pas mal question d'écologie, etc. Voilà, c'est très agréable.
Bon, et à quel moment tu vas écrire un polar ?
Voilà, tu vois, j'ai jamais écrit. Je ne me sens pas spécialement la compétence ou la capacité déjà de me lancer dans de la fiction. Je le regrette parce que j'aimerais beaucoup, mais ça suppose quand même un peu de talent, un peu de. Voilà.
Bah, c'est Douglas Kennedy qui disait que pour écrire un roman, il suffisait d'écrire 50 lignes tous les jours.
Ouais, après, malheureusement, je pense que la réalité incite à pondérer un tout petit peu cette recette.
J'avais promis d'être un tout petit peu taquin.
Ouais, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup, je suis un grand amateur de polar et j'aimerais beaucoup. Mais en tout cas, c'est pas encore à l'ordre du jour.
Avec des copines et des copains, on avait créé à Marseille le prix Marseille du polar.
Oui, je me rappelle, j'avais vu passer ça. C'est vrai qu'il y a quelques auteurs, vous avez produit quelques auteurs marquants.
Oui, puis il y a à Marseille beaucoup d'auteurs de polar, d'auteurs de bonne qualité. Et il y a ce qu'ils appellent une académie, en tous les cas une école du polar méditerranéen, qui a la même démarche, la même envie de faire partager la société au travers d'autres vues, quoi, d'autres terrains d'observation. Et c'est très, très chouette. Donc, je vais rappeler que la dédicace du livre « Les empoisonneurs » est samedi 26 septembre à 17h30 au restaurant Le Court-Circuit, 23 place Notre-Dame-du-Mont. C'est la station de métro Notre-Dame-du-Mont, c'est facile à trouver, qui est dans le 6e arrondissement à Marseille. Le site qu'anime Sylvie, les mots sont importants, donc lmsi.net. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire à nos auditeurs avant que je les remercie de leur patience?
Merci à toi, merci pour à ton toi, invitation.
Oui, bien sûr.
Mais moi, je suis content que des étrangers viennent. Vient de nous montrer ce qu'ils ont produit. Et c'est... Je trouve que chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur de Marseille, qui ont l'envie d'apporter leur écriture, leur musique, ou tout simplement eux, je trouve que c'est toujours un très grand cadeau, un très beau cadeau qui est accordé aux Marseillais, qui est offert aux Marseillais. Marseille qui est une ville qui s'est faite au travers des mélanges et des rencontres. Tout le monde se souvient des Grecs parce que c'est la mythe qui a été largement diffusée, mais aussi les Italiens, les Arméniens, tous les Arabes du pourtour méditerranéen, mais sont toutes ces les Espagnols, il ne faut pas les oublier non plus. Donc sont toutes ces cultures qui se sont rencontrées et qui font que Marseille c'est une très 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 belle ville où il se passe mille belles choses tous les jours. Moi, je dis c'est comme à la Samaritaine, pour rappeler de cette réclame. C'était à la Samaritaine et ça passe toujours quelque chose. Mais à Marseille, c'est pareil. Il y a toujours un concert, un spectacle, un bouquin. Il y a toujours une chose à faire. Merci Sylvie.
Merci à toi.
Merci à toi. Merci à toi.
Et à bientôt, on espère, à Marseille.
Eh ben, à très vite. Encore une fois, samedi 26, au court-circuit. Pour la signature et la dédicace, puis peut-être la présentation du livre. Tout vite pour la prochaine présentation du nouveau livre. Mais Sylvie, si tu écris un recueil, n'hésite pas et j'aurai grand plaisir de vous accueillir à nouveau l'un et l'autre.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.